RCF.
Patrick Lemoine en a commencé cette émission en évoquant celui qui est considéré comme le prototype du génie. Il s'agit d'Einstein. Maintenant, on va parler de celui qui, pour vous, est le plus grand génie de tous les temps.
Léonard de Vinci.
Voilà, Léonard de Vinci.
J'ai beaucoup hésité entre Léonard de Vinci et Pascal.
Ouais.
Mais Léonard de Vinci, je pensais encore un cran au-dessus.
Pourquoi ?
Parce qu'il maîtrisait tout. C'est-à-dire que c'était un génie de la peinture, tout le monde le sait, mais c'était un génie de la mécanique. C'était un génie assez philosophique, malgré tout. Il avait quand même beaucoup de pensées. C'était un génie militaire.
L'architecture.
L'architecture, bien sûr, la sculpture. Les maths, enfin, c'était à la fois un scientifique et un artiste. Et ça, c'est presque unique dans l'histoire. Pascal, il était un génie des maths, puis de la philosophie. Mais le dessin, la peinture, c'était pas du tout son truc.
Est-ce qu'on a beaucoup de textes, beaucoup de sources qui nous parlent de Léonard de Vinci, de son psychisme, dont on peut dresser un portrait comme ça?
Il y a énormément de sources, il a énormément suscité de commentaires. Lui-même a beaucoup écrit sur ses carnets. Alors, c'était pas philosophique ce qu'il écrivait, c'était plutôt des descriptions de ses machines de guerre, ou de ses hélicoptères, ou de ses sous-marins. Mais il a beaucoup écrit, et puis surtout, il a eu un rôle quand même politique assez important. Il était ami avec César Borgia, il était ami avec Machiavel, il a rencontré quand même énormément de personnes importantes de cette époque d'ébullition qui était le Risorgimento, la Renaissance italienne.
Vous pensez que si on observait aujourd'hui le cerveau de Léonard de Vinci, on trouverait quoi ?
Ouais, je ne serais pas surpris qu'on retrouve le même genre de choses que chez Einstein, parce que inventer un hélicoptère au 15e siècle, faut vraiment être un enfant ou complètement...
C'est Peter Pan, quoi.
Ouais, c'est Peter Pan, c'est exactement ça. J'aurais dû le mettre, tiens, vous me donnez un regret, mais j'aurais peut-être dû parler de ce fameux syndrome de Peter Pan, dont le prototype était Michael Jackson, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse de grandir.
Qui refuse de grandir?
Absolument. Peter Pan ne grandit pas, il ne vieillit pas, il reste toujours au même âge.
Mais alors, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de folie, là?
Oui, d'une certaine manière, oui, mais tous les enfants sont fous. Vous voyez les enfants, ça vous choque pas si vous voyez vos enfants à 3-4 ans qui parlent tout seuls, qui poussent des cris, qui se mettent à chanter, à danser et tout, c'est tout à fait normal. Faites faire la même chose à 15 ans et puis pouf, il va se retrouver chez le psychiatre. Donc les enfants sont tous fous, tous les enfants sont dieux, tous les enfants sont immortels.
Et tout puissant.
Génies, et tous les génies aussi.
Alors, pour en revenir à Léonard de Vinci, un génie dans toutes les disciplines. Une tête donc bien faite, bien pleine aussi, c'était un homme très
bien
cultivé.
Oui, ouais, absolument. Très beau, très soucieux de son look aussi, c'était vraiment un homme qui était... Alors c'était pas une figure de mode, parce qu'il s'est composé un look qui était en dehors de son époque.
Original.
Très original, selon moi très beau, et avec à la fin cette tête de prophète qui s'était également constituée. Donc on voit qu'on peut être génial, mais se préoccuper de sa personne, de son apparence.
Souvent ce sont des personnalités atypiques.
Regardez, pour en venir à Cédric Villani, cette lavalière qu'il arbore, cette coupe de cheveux improbable, lui aussi est très préoccupé de son look, mais qui se fiche complètement de la mode.
Et du regard des autres ?
Et du regard des autres, bien sûr. Lui, il se fait plaisir, ce qui l'intéresse, c'est le regard dans le miroir.
Léonard de Vinci, un génie du bien ?
Oui, mais avec quand même des zones d'ombre. J'ai un peu de mal quand même à accepter des armes de guerre.
Qu'il a imaginées.
Ah oui, qu'il a imaginées et mises en œuvre. César Borgia l'adorait, qui était un militaire sans vergogne, qui était vraiment, lui, plutôt un génie du mal, carrément, qui n'hésitait pas à torturer, à faire des guerres, uniquement pour son bon plaisir, ou du moins pour sa politique. C'était pas du tout pour convertir comme... Je sais pas, moi, Saint-Louis, qui était un fanatique, mais il faisait les croisades pour convertir. C'était l'idéologie de l'époque. César Borgia, c'était juste pour avoir le pouvoir.
Léonard de Vinci s'est mis à son service.
Oui, oui, absolument.
Mais est-ce que tout ça n'est pas à remettre aussi dans un contexte, à une
bien
époque
sûr, bien
où
sûr.
La valeur de l'individu était bien moindre qu'aujourd'hui, par exemple?
Je suis pas absolument convaincu de ça. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que Léonard de Vinci aimait beaucoup les sous, qu'il était tout le temps à la recherche de protecteurs, et que quand les Sforza n'étaient plus au pouvoir, il a cherché un autre protecteur. Il a trouvé César Borgia, qui était assez généreux et assez riche, c'était un banquier quand même. Et Bah, César lui a dit, tu vas me faire un tank, ben il a fait un tank. Il a fait plein d'armes comme ça, il a fait des défenses pour les cités, il a détourné des fleuves pour assiéger des villes, il a fait des choses militaires étonnantes, d'ailleurs complètement géniales.
Un Peter Pan qui avait quand même bien les pieds sur terre donc. Hein.
Oui, c'est ça qui est étonnant chez Léonard de Vinci, c'est qu'il était complètement pragmatique, mais complètement génial, complètement enfantin, et puis aussi très bipolaire. Avec des moments où il est complètement au 36e dessous, des moments où il est exalté, puis après il disparaît, puis il réapparaît. Donc je pense qu'il faisait partie de cette grande cohorte des bipolaires géniaux.
Dans la grande famille des artistes...
J'appelle le...
celui qui a défrayé la chronique là, il y a quelques temps, parce que des livres notamment de ses enfants, petits-enfants ont été publiés. Pablo Picasso,
oui,
dont la personnalité est plus que contestable, même si son œuvre, elle, est véritable
génie. Le génie du XXe siècle et un des plus grands génies de la peinture de tous les temps. C'est incontestable. Là aussi, il y a un avant Picasso, un après Picasso. Il a vraiment renversé la table. Il a fait autre chose. En plus, toute sa vie, qui a été très longue, 85 ans, je crois, il a changé de style. Parce que un Picasso de la période bleue n'a rien à voir avec un Picasso de Guernica, n'a rien à voir avec un Picasso de la fin de sa vie. Tout le temps, il a inventé, il a créé. Donc c'est vraiment lui aussi, en art, le prototype du génie. En revanche, c'était un sale type, faut bien le dire. Avec toutes ses femmes, avec ses enfants, il était abominable. Le diagnostic que j'ai porté chez lui est plutôt de pervers narcissique, qui n'est pas très aimé des psychiatres comme diagnostic, mais il colle vraiment bien.
Qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique ?
C'est quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à lui-même. Il n'y a que lui qui compte, qui a une image de lui... mégalomaniaque, je suis le meilleur du monde, quoi, en gros, Picasso. Je sais plus quel était le critique d'art qui disait que Matisse s'intéressait à la peinture et Picasso ne s'intéressait qu'à Picasso. Et le pervers, c'est quelqu'un qui fait le mal en projetant sa propre culpabilité sur l'autre. Je m'explique, je suis expert, et combien de fois j'ai vu des violeurs qui disaient « Je l'ai violé, oui, mais enfin c'est de sa faute, elle m'a aguiché, c'est une salope ». Elle l'a bien cherché. Mais c'est pas une psychose non plus. C'est des gens qui ont quand même les pieds sur terre. Mais culpabilité, ils connaissent pas. C'est pas moi qui suis coupable. Si je te viole, c'est de ta faute.
Et pourtant, Picasso a été capable de travailler...
Culpabilité, jamais. Je crois vraiment pas. La façon
mais d'où lui vient...
Toutes ces femmes qui se sont suicidées en masse, son fils alcoolique, ils ont tous mal fini. Ils s'en foutaient, a priori, complètement. Il a tout essayé, les ménages à trois, il les a humiliés. Rares ont été celles qui l'ont largué. Question de survie, il l'a très très mal pris. Enfin, comment peut-on abandonner un aussi grand génie qui a fait autant de bien pour toi ?
Quelqu'un qui est malgré tout capable aussi d'une conscience de l'horreur de la guerre. Quand on regarde Guernica, c'est d'une puissance indescriptible.
C'est absolument vrai, c'est absolument vrai, mais... C'était pas sa famille, c'était pas ses proches, Guernica. Ça reste malgré tout assez abstrait, même si ça prend aux tripes. Je pense que, comment dire, il était immensément riche. Et il adorait l'argent, lui aussi, beaucoup plus que Léonard de Vinci. Mais il était communiste, ça le gênait pas. Et il a fait quelques donations au Parti communiste français, mais il a jamais vraiment milité. C'est-à-dire qu'il avait pas peur du paradoxe, mais je crois aussi qu'il cultivait son image. Je dirais pas Guernica, c'était uniquement de la pub. Mais je suis persuadé qu'il y a une partie... Belle image qu'il donnait au monde d'antifasciste, ce qui est très bien d'ailleurs.
Alors, dans un autre registre artistique, pour terminer cet entretien, j'aimerais que vous nous disiez un mot de Zizou.
Ah, Zizou. Est-ce que je vais oser vous l'avouer ?
Allez-y.
Je n'aime pas le foot. Je n'ai jamais aimé le foot.
Et pourtant
d'abord, je me suis fait engueuler par tous mes proches qui m'ont dit « Mais tu ne peux pas ne pas mettre un sportif, c'est pas possible. »
Et pourquoi lui ?
J'ai pris mes grimoires et j'ai lu beaucoup d'articles disant que c'était le plus grand génie du foot de tous les temps. Circuler, il n'y a rien de plus à voir. Deuxièmement, ce qui m'a intéressé chez lui, parce que j'aurais pu prendre son nom m'échappe, le tennisman qui vient de gagner Roland-Garros, Rafael Nadal, qui est un génie du tennis, certainement, et en plus qui a une profondeur de réflexion, qui a vraiment des phrases tout à fait étonnantes. Mais Zizou, il a une chose en plus, c'est qu'il a deux carrières, c'est-à-dire qu'il a fait une carrière de footballeur et il a fait une carrière de coach sportif, d'entraîneur ou de sélectionneur, je ne sais pas comment il faut dire. Et qu'il a parfaitement réussi dans les deux cas. Et je me dis quand même que son intelligence n'est pas que dans ses pieds, qu'il a su quand même galvaniser ses troupes, les emmener à la victoire, et ça, c'est pas rien. Et puis, il a su surprendre, et ça, un génie, ça doit surprendre. Par exemple, le coup de boule qui a mis fin à sa carrière à Materazzi, je me disais, bon, c'est un psychopathe, c'est une brute, quand on l'embête, il donne un coup de boule. Et donc, je suis allé voir cette vidéo, j'ai regardé des dizaines de fois, et j'ai l'intime conviction, encore une fois, ce n'est qu'une intuition clinique, que c'est un truc qui est réfléchi et administré avec une précision chirurgicale. Parce que le si vous voyez, Materazzi lui dit un truc, personne n'a jamais su ce qu'il lui a dit, probablement épouvantable sur sa famille, sa mère, sa sœur, probablement les deux. Il réfléchit un moment, on le voit qu'il réfléchit, et il se retourne, et très calmement, il va vers Materazzi, et il lui donne le coup de boule dans la poitrine. Alors qu'un voyou, c'est dans la figure. Et ça fait du mal. Alors que là, il l'a fait de manière à pas faire de mal. À Materazzi, comme c'est un footballeur italien, il s'est roulé par terre et tout. Mais c'était pas violent, en fait. C'était chirurgical. Je pense qu'il avait analysé que de toute façon, c'était râpé, que le match était perdu. Et il est parti sur une espèce de pied de nez planétaire.
Magistral.
Et chapeau l'artiste, quand même. Et puis pareil, il emmène, en tant qu'entraîneur, le Real de Madrid au pinacle. Et paf, il démissionne. Et là, il a stupéfait tout le monde. Donc c'est soit le... il est nul pour dire au revoir, ou au contraire, c'est le dieu des sorties.
Et je pense que vous penchez plutôt
oui,
pour cette deuxième solution. Allez, on vous retrouve demain. Merci.